la musique populaire de la grande île de Cuba n'est pas inconnue de l'Europe et du monde, tout au moins sous l'aspect de la fameuse et voluptueuse rumba. Cette danse, fille à la fois de la langueur espagnole et du rythme endiablé des Noirs, se manifeste d'ailleurs à Cuba dans les quartiers populaires avec une fougue, un feu, que n'atteignent certes pas les Européens et Européennes dans leurs tourbillons les plus pâmés.
Jukebox.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Ah bon, Richardo.
Une page d'histoire mise en récit par un texte des archives et des musiques choisies chaque dimanche à 15h sur France Culture. Voici Jukebox. Aujourd'hui, rumba, mambo, mais aussi cha-cha-cha, retour sur l'extraordinaire engouement des États-Unis des années 1930 à 60 pour les musiques de danse latine et notamment les rythmes cubains. Depuis l'orchestre de Javier Cugat, le roi de la rumba, faisant se déhancher les riches blancs de l'hôtel Waldorf Astoria de New York, le mambo craze qui se diffuse depuis le Palladium Ballroom et d'autres clubs de la ville, les orchestres de Pérez Prado, Tito Puente, Tito Rodriguez, jusqu'à l'avènement en 54 du cha-cha-cha. Ces musiques se diffusent et irriguent les productions hollywoodiennes, mais cette parenthèse d'insouciance et d'appétence pour la culture cubaine se refermera brutalement en 59, lorsque se tendront les relations entre Washington et La Havane. Aujourd'hui, rumba, mambo, cha-cha-cha, quand l'Amérique dansait à l'heure cubaine. L'air résolu, plantant ses yeux noirs dans les siens, faisant abstraction du reste de la table, il s'était approché d'elle, cintré dans son élégance clinquante et ses souliers vernis. Elle avait marqué un temps de surprise et l'avait détaillé. Il n'avait pas mauvaise mine alors elle s'était levée et avait attrapé la main soignée qu'il lui tendait sous le regard ahuri du reste du groupe. Elle était si lasse des conversations mondaines et monotones qui agitaient les autres. Elle noyait son désarroi dans des verres qu'on commandait pour elle. Polie, elle répondait du bout des lèvres aux questions de ses amis et de son fiancé, mais son esprit était ailleurs, ballotté par la frénésie qui saturait l'air du club aux lumières tamisées. Tandis que, tremblante et le cœur s'accélérant, elle suivait son cavalier vers la piste, elle se disait qu'elle venait de sauter dans le vide, qu'elle ne suivrait pas comme prévu à la fin du mois son fiancé à l'autre bout du pays, qu'elle ne rentrerait pas même cette nuit se coucher à ses côtés. Au diable les engagements, les convenances, c'était l'occasion rêvée de retrouver sa liberté. Sauf que, parvenue aux limites de la piste, elle avait réalisé qu'elle ne comprenait rien à ce qu'il convenait d'opérer, qu'elle ne savait pas danser. Elle avait certes observé les couples s'animer au loin depuis des heures, mais à aucun moment elle n'avait songé à s'y mêler. D'ailleurs, sa robe trop serrée gênait ses mouvements, ses talons trop hauts et son chahut intérieur, tout ça, ça la tétanisait. Pourtant, elle était là, désormais, face à ce jeune inconnu, sans doute un habitant du quartier qui lui souriait, insouciant et déjà mobile dans ses chaussures cirées. À la périphérie de son champ de vision, elle avait entendu son fiancé l'appeler pour qu'elle revienne s'asseoir, et puis les autres se lever, scandalisés, et se diriger vers le vestiaire, jetant sur elle des regards mauvais. Alors elle avait brièvement fermé les yeux, tenté de calmer sa respiration, et elle s'était abandonnée aux mouvements impérieux de cet inconnu et au rythme chaloupé délivré par l'orchestre.
We're face to face, afraid we might embrace, afraid we might embrace. We're face to face. Then suddenly you're dancing close to me. Then anything can happen. Mambo! We thrill, we cling. The drums begin to sing. The drums begin to sing. We thrill, we cling. We both reveal the feelings that we feel. Then anything can happen. Mambo! Closer, closer, hold me closer. Dance me to the moon. Never, never leave me ever. The spell will break so soon. And so the moon we touch, we kiss. It's never been like this. It's never been like this. We touch, we kiss. Can this be love or just the magic of? Then anything can happen. Mambo! Me closer, dance me to the moon. Never, never leave me ever. The spell will break so soon. And so the moon we touch, we kiss. It's never been like this. It's never been like this. We touch, we kiss. Can this be love or just the magic of? Then anything can happen. Mambo, then anything can happen. Mambo, then anything can happen. Easy boy.
Anything Can Happen, le mambo de l'orchestre de Javier Cuga avec la chanteuse Abby Lane, publié vers 1950. Et de fait, tout pouvait arriver alors dans ces États-Unis riches et prospères, conquérants et sûrs d'eux-mêmes. Cette Amérique où l'espoir de pouvoir vivre mieux et en paix semblait se diffuser librement, comme le sillage d'un parfum entêtant. Ces États-Unis au début des années 1930. Rien que les cinq décennies précédentes y ont afflué 27 millions de migrants venus du monde entier. Face à une telle diversité de langues et de traditions, l'unification du pays se fait au lendemain de la Première Guerre mondiale grâce à une divinité païenne, la consommation de masse. En buvant du Coca-Cola, en avalant des céréales Kellogg's ou des hamburgers de telle ou telle marque, les émigrés, notamment ouvriers, deviennent vraiment des Américains. On consomme des loisirs, se multiplient des parcs à thème, des salles de cinéma ou de danse qui poussent les jeunes à quitter leur quartier grâce aux tramways, puis de plus en plus grâce aux automobiles qui bouleversent le paysage, drainent hors des centres-villes les blancs, lesquels vont trouver en banlieue calme, carré de gazon et nouvelle sociabilité. L'émancipation progressive des femmes qui ont obtenu en 1920 le droit de vote et s'abonnent à de nouvelles revues de mode entraîne un relâchement du contrôle parental. Les jeunes filles se mettent à se maquiller, de nouveaux rituels de drague apparaissent. Lors des surprises parties, on se met à écouter des 78 tours sur des pick-up, le swing des grands orchestres de Duke Ellington ou de Cab Calloway, des comédies musicales, mais aussi parfois les enregistrements plus exotiques que rapportent certains touristes de retour des Caraïbes et notamment de Cuba.
El ube chango,
oe,
el ube baba,
oe,
el ube lube papa,
oe,
piki di kumba bala bapa kata da
frigo
di
kio.
Cuba, où depuis la fin du 19e siècle s'étaient implantés de somptueux palaces comme l'hôtel Inglaterra, le Telegrafo, El Palacio de Santovenia, l'hôtel Sevilla ou encore l'hôtel Plaza ouvert en 1909. Beaucoup de ces établissements luxueux sont financés ou rachetés par des capitaux états-uniens. Cuba attire d'autant plus d'Américains que depuis 1919, la prohibition sévit aux États-Unis. L'île en profite et une commission nationale pour la promotion du tourisme légalise à Cuba tout ce que Washington a banni. Les jeux de hasard, les loteries, les paris, les casinos, les combats de coqs, mais surtout l'alcool coulant à flot dans les bars et les restaurants. Cuba devient pour les Américains un paradis du divertissement, une sorte de Monte-Carlo pour croisiéristes. En 1929, plus de 80 000 États-Unis s'y rendent. Et puis Cuba, c'est aussi une immense culture musicale populaire. La guaracha, la habanera, le son, le danzón, le bolero, la guajira. Patrimoine que les grands labels américains, Columbia ou RCA, viennent enregistrer à La Havane dès 1924 et qu'ils diffusent depuis aux États-Unis et au Mexique. Prolifèrent également des orchestres de jazz. Témoignage du chanteur Oscar Lopez sur France Culture dans Les Nuits Magnétiques.
À ce moment-là, le Cubain s'habillait très bien, parce que c'est une époque, il y avait le chapeau, qu'on l'appelle nous, style Maurice Chevalier, en France, les canotiers. Et alors, très bien, il habillait bien les costumes, avec même la chaleur qu'il y avait là-bas, tout le monde s'habillait très bien déjà, des débuts de siècle, surtout les Noirs, parce que, pour qu'ils ne disent pas qu'ils étaient des podioseros. Hein. Mais en réalité, c'est une époque, musicalement parlant, très bonne pour Cuba, parce que de la musique, il n'y avait pas tout. Et en plus, il y avait la radio-émisseur, que 1922 sont commencés, et qu'en 1929, il y avait 31 émissoires de radio rien qu'à La Havane. Alors, vous pouvez imaginer. Et ce sont les orchestres, comme moi, que je suis allé chanter en 1935, dans une orchestre de charanga, comme on dit, et qu'on m'a payé, on m'a donné 10 centimes pour les transports. Le transport coûtait 5 centimes pour aller, 5 centimes. Mais moi, je prenais pas la guagua, que c'est la, parce que j'allais à pied pour avoir les 10 centimes. Et comme moi, tous les chanteurs de cette époque-là.
Divertir, comete un poco ruchito de mamé.
Assez logiquement, donc, les sonorités cubaines s'étaient frayées un chemin jusqu'au continent. En 1930, est monté à Broadway un spectacle proposé par un chef d'orchestre cubain, Don Aspiazu, qui triomphe avec The Peanut Vendor, le marchand de cacahuètes, adaptation d'El Macinero, Manicero, composé par un autre. Maracas, claves, timbales, congas ou bongo, le public new-yorkais raffole de ce nouveau genre d'orchestre et de ses percussions cubaines. Ce Peanut Vendor se vend à 1 million d'exemplaires, un record pour l'époque. Stylistiquement, il s'agit d'un son, une vieille musique cubaine. Mais face à ce succès, et puis les styles cubains étant si nombreux, on regroupe, soyons pratiques, cette musique et l'ensemble des autres musiques cubaines sous un nom générique qui sonne mieux aux oreilles américaines, la rumba. Faisant oublier le tango, envahissant les dancing, la rumba incarne soudain l'exotisme, la chaleur, la fête, la séduction. Son meilleur ambassadeur aux États-Unis devient bientôt Javier Cugat, qui, à partir de 1932, à l'hôtel Waldorf Astoria de New York, régale chaque soir à la tête d'un orchestre cubain une clientèle blanche et chic, comme avec ce Negro Arraza vers 1940.
Hey Negro, vamos a rezar. Di permiso pa' bailar. Son un negro esclavo libre de corazón. Viene pa' fumar cabildo mi madriguina Pilar. Ey, Doroteo, suena duro el conco. Que hoy es un día de chango. Y en cuanto empieza el bembé, los blancos van a bailar.
A bailar, ya está bembé.
O una arena fue y el tío Juanille bembé.
A bailar, ya está bembé.
Oiga Cuba hablando el inglés.
A bailar.
Yo soy negro y me da la merced.
A bailar, ya está bembé.
Ocun, a fe y así, mira, me sé.
A bailar, ya está bembé.
1940, ce Negro Arezza, l'orchestre de Javier Cugat, accompagné au chant par le célèbre Machito, également chef d'orchestre et joueur de maracas. Le génie de Javier Cugat est alors de comprendre que seul ne compte pas la musique. Les Américains blancs ignorant pour la plupart ce qu'est la vraie musique latine. Ces spectacles doivent aussi être visuels. Impeccablement habillé, le visage rond et hilar, orné d'une fine moustache et dirigeant parfois ses orchestres un chihuahua sous le bras, il impose à ses musiciens des costumes colorés et un sourire de rigueur. The show must go on. Et d'ailleurs, la vie de Javier Cugat ressemble à une fiction, même si l'on peut le soupçonner de l'avoir largement enjolivé. Né en Catalogne en 1900, ses parents l'avaient emmené à Cuba lorsqu'il avait 3 ans. Prodige musical précoce, il était déjà à 12 ans devenu premier violon dans l'orchestre symphonique du Théâtre National de La Havane. Là, il y croise Enrico Caruso, le célèbre ténor italien qui lui conseille d'aller tenter sa chance aux États-Unis. Il y part avec ses parents. À New York, il joue dans des restos et des cafés. Quelques années plus tard, il épouse une chanteuse cubaine qui triomphait alors à Broadway, mais dont il divorce rapidement. Un tour en Europe pour perfectionner son violon, puis, de retour à New York, quelques concerts au Carnegie Hall et des opéras, mais décidément, le succès n'est pas assez rapide pour lui. C'est alors qu'un homme d'affaires espagnol lui propose d'aller vendre des antiquités, vraies ou fausses, à Los Angeles, ce que fait Cugat, avant de se tourner vers autre chose. Maniant aussi bien le crayon que l'archet, il se met à croquer les vedettes d'Hollywood et le voilà embauché comme caricaturiste au Los Angeles Times. Il croise Charlie Chaplin sur un tournage. Puis un jour, on lui demande de croquer le portrait de la fameuse actrice mexicaine Dolores del Rio. Mais la personne qui se présente à lui se révèle n'être que sa doublure, une chanteuse dont il fait sa femme. Enfin, en 1927, il fonde son premier orchestre, Cugat and His Gigolos, qui se produit dans un nightclub d'Hollywood, le Montmartre. L'indicatif de l'orchestre, Estrellita, qu'on entend en ce moment, et ses rythmes latins font mouche. Ce qui lui permet ensuite d'aller jouer au Coconut Grove, la boîte de nuit de l'hôtel Ambassador où se presse toute la jet set de l'époque et à qui il déroule des tangos et des rumbas. Grâce à lui, s'ouvre l'ère de la musique tropicale.
thrill of a new romance, enchanting me while we dance. What's making my heart beat fast? Is this the real thing at last? You're here in my arms tonight, but will you be there tomorrow? Will you linger on, or will you be gone? Who'll look for the thrill of a new
à New York en juin 39, The Thrill of a New Romance par Javier Cugat et son orchestre avec la chanteuse Dinah Shore. Cette nouvelle romance qui fait alors frissonner l'Amérique, c'est notamment la danse.
Let's dance!
Let's dance!
Let's dance! Let's dance!
I got rhythm from Girl Crazy for the Let's Dance party of Mr. and Mrs. Frank Callahan of Philadelphia.
Ces années 30, les États-Unis ont une folle envie de se déhancher, et notamment donc sur la rumba. La demande de divertissement est telle qu'à partir de décembre 34, la grande radio NBC diffuse chaque samedi soir 3 heures de musique de danse. La dernière heure est réservée au swing du jeune Benny Goodman qu'on entend, la première à de la musique classique, et au milieu, c'est Javier Cugat qui déroule ses rythmes latins. L'émission ne dure que 6 mois, mais Cugat, ainsi diffusé d'un bout à l'autre du pays, se retrouve sacré roi de la rumba. Depuis 1932, Cugat et son orchestre a donc investi le Waldorf Astoria, l'un des plus célèbres palaces de Manhattan, pour le plus grand plaisir des riches New-Yorkais qui viennent participer au dîner dansant sous la verrière illuminée du Starlight Roof au 18e étage, tout en marbre, en lourdes tentures et en colonnades. Il adopte comme indicatif le My Shawl qu'on entend en ce moment, composé d'après un vieux chant catalan. Son orchestre, qui compte jusqu'à 20 musiciens, comporte des musiciens cubains pour la section rythmique, mais il incorpore également de nouveaux instruments comme le marimba, l'accordéon et même la harpe. Les arrangements sont toujours sophistiqués à la Glenn Miller et laissent peu de place à l'improvisation. Tout comme Cugat laissera son nom à un cocktail, le Cugat Conga Cocktail, mélange de rhum blanc, de grenadine, citron vert et un trait d'absinthe, son répertoire mélange les succès des différentes musiques afro-latines. Ce n'est pas un puriste, il cherche avant tout à plaire à son public. Tout est fait pour faire danser cette foule de smoking et de robes du soir sur une rumba de pacotille. On est loin de la véritable rumba, de la danse de l'amour, ces mouvements lents et sensuels où la femme aguiche l'homme avant de se dérober et l'homme de revenir à la charge mais en vain. Non, les foules du Waldorf se déhanchent joyeusement en file indienne sur quelques pas simplifiés, mais tout le monde est ravi. À ceux qui lui reprocheront plus tard cette vulgarisation, Cugat aurait objecté « Je préfère jouer Chiquita Banana et avoir ma piscine que jouer Bach et crever la dalle ». Pendant la guerre, Cugat jouera son propre rôle dans une vingtaine de films hollywoodiens comme dans « You Were Never Lovelier », rythmant les claquettes de Rita Hayworth et Fred Astaire, tout en conservant sa résidence au Waldorf jusqu'en 1947, s'entourant des meilleurs chanteurs latinos de l'époque, comme le portoricain Tito Rodriguez, qui dans ce bim bam boom de 1942 exalte la saveur des nouveaux rythmes de la danse.
Es el nuevo compás que los negros van bailando en la comparsa. Que bim bam bum, que la mulata Merced arrollando va detrás de la comparsa. Que ya no quieren cumbanchar las negritas del solar, sino cantan al compás de este ritmo así. Suénalo, báilalo, gózalo, óyelo. Bim bam bum, bam bum. Qué sabrosito está este paso arrullador de la comparsa. Bim bam bum, bim bam bum, es el nuevo compás que los negros van bailando en la comparsa. Bim bam bum, que la mulata Merced arrollando va detrás de la comparsa. Que ya no quieren cantar que las negritas del solar, sino cantan al compás de este ritmo así. Suénalo, báilalo, gózalo, óyelo. Bim bam bum, bim bam bum, qué sabrosito está este paso arrullador de la comparsa.
Bim Bam Boum, l'orchestre de Javier Cugat, accompagné du chanteur portoricain Tito Rodriguez. Après-guerre, les échanges entre les États-Unis et les Caraïbes s'accélèrent encore. Le tourisme états-unien explose en Jamaïque, à Saint-Domingue, aux Bahamas, mais surtout à Cuba, où prospèrent toujours casinos, prostitution, alcool et orchestres de qualité. Mais en sens inverse, de plus en plus de Caribéens viennent également s'installer aux États-Unis, et notamment à New York. De nombreux Portoricains, par exemple, déferlent à la fin des années 40. Confrontés à l'hostilité de l'opinion publique envers leur immigration de masse, ils se regroupent dans le quartier d'East Harlem, autour de la 110e rue, poussant les Italiens qui y vivaient jusqu'alors à déménager. East Harlem devient Spanish Harlem, et bientôt on parlera del barrio, le quartier. S'y ouvre quantité de bodegas, mais aussi, et un peu partout dans Manhattan, des clubs latins ou des disquaires spécialisés. Et puis il y a aussi les Cubains qui, de plus en plus nombreux, viennent tenter leur chance à Miami ou New York. Parmi eux, des musiciens de jazz comme le percussionniste Machito, le trompettiste Mario Boza, ou bien en 1947, un autre percussionniste, Chano Pozzo. Ces virtuoses du rythme se lient tout naturellement à la nouvelle garde du jazz, la génération des musiciens afro-américains du bebop, à l'instar du trompettiste Dizzy Gillespie, Archive.
J'ai traîné et joué avec des orchestres cubains, aussi avec des orchestres des Caraïbes. J'ai toujours été orienté vers les rythmes. Personne n'avait fait ça. Ils avaient peur. Pas moi, ça m'embêtait pas. Je me sentais bien avec ces gars-là. Je connaissais Chano Pozzo, Mario Boza. Je connaissais tous les Cubains. Je traînais avec eux. Et puis j'essayais d'apprendre. J'ai jamais appris complètement. Parfois, je suis perdu en jouant avec un orchestre cubain. C'est comme si mon esprit avait tout d'un coup un trou. J'essaye de revenir, mais il n'y a pas de grosse caisse, pas de repère. Il faut se représenter où on en est. Et il faut connaître les rythmes qu'ils jouent. Sinon, vous êtes perdu. Est-ce qu'on en est à aujourd'hui, hier, ou à après-demain ?
France Culture, Jukebox aujourd'hui, quand l'Amérique se met à l'heure latine. Disparition de la batterie remplacée par les congas, 1947, Dizzy Gillespie et son orchestre pour ce Manteca composé avec Chano Pozzo, Pozzo qui lance la mode du cubop, le jazz afro-cubain. Mais l'influence cubaine ne s'arrête pas en si bon chemin, car bientôt, après la rumba, après le jazz mis à la sauce cubaine, viendra le mambo. le mambo qui se diffuse non plus auprès des riches touristes de New York et des hôtels, mais dans les clubs fréquentés par les latinos de la ville, au premier rang desquels le Palladium Ballroom, ouvert en 1946 à l'angle de Broadway et de la 53e, où les orchestres mettent en avant les percussions, reléguant en fond de scène les cuivres. Là aussi, il s'agit de faire danser les foules, mais cette fois-ci, vraiment danser. La devise du club prône d'ailleurs que ne compte ni la classe sociale ni la couleur de peau, mais seulement la capacité à danser. L'immense salle de bal peut accueillir jusqu'à 1000 couples et chaque semaine s'y tiennent des concours de danse. C'est donc là qu'à partir de 48 se développe le mambo, une nouvelle danse dérivée de la rumba, mais plus complexe, plus endiablée. Les danseurs se font face, leurs pas sont réalisés en miroir, tandis que les corps se rapprochent. D'abord programmé le dimanche matin, puis les mercredis soirs, le mambo finit par s'imposer chaque soir. Un cours de danse gratuit y est proposé une fois par semaine. S'y pressent les latinos de New York, mais aussi bientôt les stars de Broadway, d'Hollywood, Marlène Dietrich ou Sammy Davis Jr. Bientôt, cette mambo craze, cette folie du mambo se répandra à travers les États-Unis. Au Palladium, et cela fait partie de l'attrait du lieu, trois orchestres se disputent la vedette. Celui de Machito, chanteur qu'on évoquait plus tôt, celui du percussionniste Tito Puente, né à Spanish Harlem, et puis celui de Tito Puente, celui de Tito Rodriguez, un ami de Tito Puente, que voici en 55 avec El Mujeriego.
Estoy enamorada. Si se trata de una rubia, ya la cosa es diferente. Suelen ser bien engañonas con sus ojitos celestes.
Me gustan todas en general. Donde hayan falda, yo quiero estar.
Ay, mira, pollito lindo, lindo, tú me vas a matar.
Donde hayan falda, yo quiero estar.
Flaca o gordita.
Le chanteur et chef d'orchestre Tito Rodriguez pour ce El Mujeriego de 1955. Impossible d'aborder le mambo sans évoquer Pérez Prado, qui ne se produit pas, lui, au Palladium de New York, mais qui marquera le genre. Né lui aussi à Cuba, il avait débuté comme pianiste dans un casino avant de gagner le Mexique, où il s'était forgé une réputation avec une autre formation, comprenant le grand chanteur cubain Benny Moré. Se faisant connaître grâce à la radio mexicaine, il s'était spécialisé dans le mambo, en composant tellement que certains de ses morceaux ne portent plus de nom, mais seulement des numéros, comme son célèbre Mambo No. 5, publié en décembre 49. De plus en plus de Californiens viennent alors à Mexico danser sur ses rythmes. Son disque remporte un tel succès que Pérez Prado part à Los Angeles. Il y débarque seul et en quelques jours forme un orchestre de pointure. Il enchaîne les concerts, dirigeant ses musiciens depuis son piano d'une manière autoritaire et magnétique. Comme Javier Cugat, Pérez est un vrai showman. Il entame ensuite une tournée qui le conduira à New York où il sera pourtant mal accueilli, suscitant sans doute quelques jalousies parmi les musiciens de la ville à force de s'auto-proclamer roi du mambo. Il connaîtra des hauts et des bas, mais en 58, son Patricia s'écoulera à 4 millions d'exemplaires et sera réutilisé par Fellini dans la Dolce Vita. L'orchestre de Pérez Prado pour ce Patricia de 1958. À cette époque, aux États-Unis, le mambo gagne Chicago, Miami. De nombreux grands orchestres de jazz s'en emparent, tandis que d'autres jazzmen creusent le jazz afro-cubain, comme Mongo Santa Maria. Bref, à cette époque, c'est une sorte d'âge d'or et tout le monde ne jure que par la musique cubaine, même les blancs. Exemple avec Percy Faith, né en 1908 au Canada, puis naturalisé américain, et qui dans les années 40 devient chef d'orchestre pour les émissions de télé de CBS ou de NBC, avant d'exploiter la décennie suivante les styles de Broadway et d'Hollywood, surfant sur la mode des musiques latines, comme dans cette très élégante Jamaican Rumba de 1952. Thank you. Le chef d'orchestre et arrangeur américain Percy Faith pour cette Jamaican Rumba de 1952. Cha cha cha. Cha cha cha. Ça n'est pas fini, ce milieu des années 50, encouragé par l'émergence de la télé et des 33 tours, voit ensuite déferler le cha-cha-cha. Présenté au Palladium de New York en 54, c'est tout bêtement une version simplifiée du mambo que la plupart des danseurs avaient du mal à danser. Ici c'est facile, le premier pas tombe sur le premier temps, les suivants sont à l'avenant, c'est ni trop rapide ni trop lent et les pieds des danseurs produisant sur le sol ce doux frottement, cha-cha-cha, font le reste. Quant aux paroles, là encore, elles sont optimistes et joyeuses, comme dans ce « Oye como va » signé Tito Puente qui en 62 clame sans relâche « Écoute-le, mon rythme, comme il est bon, bon pour s'amuser, mulâtre ». Et exemple de cha-cha-cha, ce Oye como va par le portoricain Tito Puente. Tout semble donc aller pour le mieux. Cuba diffuse aux États-Unis sa joie de vivre. Sauf qu'entre-temps, la situation politique a basculé. Archive 1959.
Les pacifiques guitares et les bongos nonchalants qui rythment la vie tranquille de Cuba ont pris ce 1er janvier 1959 d'insolites accents. À travers l'île tout entière, ils chantent la révolte et la guerre. Il porte comme un cri de victoire le nom de Fidel Castro. Hier encore, Fidel Castro n'était qu'un hors-la-loi, prisonnier du maquis avec quelques-uns de ses partisans. Et le tout-puissant dictateur de la République cubaine, Fulgencio Batista, lui accordait l'attention qu'on réserve aux vulgaires bandits de grand chemin. De temps en temps, on trouvait pendu à la plus haute branche d'un arbre des jeunes gens avec sur la poitrine un écriteau ainsi libellé, Fidel à Castro. Mais depuis la Saint-Sylvestre, les choses ont bien changé. Les troupes de Castro ont pris Santiago, la deuxième ville de Cuba. Mieux encore, la révolution gronde aux portes mêmes du palais forteresse de Batista. Et le 2 janvier à l'aube, le dictateur doit prendre la fuite. Après quoi, le libérateur Fidel Castro n'a plus qu'à entrer dans la Havane et à exposer au peuple rassemblé les motifs de son mouvement.
Había verdaderos intereses. Si en cada uno de nosotros había un propósito de darlo todo a cambio de nada, estábamos dispuestos a renunciar a todo lo que no fuese seguir cumpliendo sacrificadamente con el deber.
Oui, cette révolution répond à un idéal, la liberté.
À La Havane, en janvier 59, Castro et ses guérilleros communistes chassent du pouvoir le corrompu Batista. Castro veut assainir l'économie locale, gangrénée sous son prédécesseur par les Américains et les intérêts mafieux. Bientôt, les maisons de jeu sont interdites, les chaînes d'hôtels aux mains de capitaux états-uniens sont nationalisées. De nombreux musiciens cubains s'exilent aux États-Unis durant ce qu'on appelle l'exode du showbiz. Les relations se crispent entre Cuba et Washington. Le gouvernement américain dissuade ses ressortissants de se rendre sur l'île. Et en 61, les deux camps rompent toute relation diplomatique. Aux États-Unis, la mode cubaine semble s'essouffler. Les jeunes latinos nés sur place se tournent de plus en plus vers le rock. Les grands orchestres de mambo ou de cha-cha-cha qui coûtent si cher sont de moins en moins rentables et cèdent le pas à ceux plus réduits de l'éphémère pachanga qui remplace les lourdes sections de cuivre par des flûtes. Le club Palladium ferme ses portes en 66. La musique cubaine semble quitter Manhattan. Pour autant, comme un parfum entêtant, les influences latines et cubaines ressurgiront. Ainsi, avant qu'au début des années 70 n'explose la salsa qui connaîtra un succès planétaire, était né le boogaloo, mélange de soul, de rhythm and blues et de rythmes afro-cubains, porté par des plus petits groupes et des musiciens plus jeunes, comme le sextet de Joe Cuba, ou bien comme le pianiste Hector Rivera, qui en 67 publie ce « At the Party » sur lequel on se quitte. Ainsi se referme ce numéro de Jukebox aujourd'hui, rumba, mambo, cha-cha-cha et donc même boogaloo, quand l'Amérique dansait à l'heure cubaine. Merci pour leur préparation à Lily Cornaert pour les notes historiques, à Antoine Vuillose pour la documentation musicale et à Hervé Evano à l'INA. Jukebox se réécoute sur le site de France Culture où vous retrouvez la liste et les références des morceaux et des archives diffusées, une bibliographie ainsi que la possibilité de nous écrire. Pour le téléchargement, nous avons depuis quelque temps des problèmes avec iTunes, préférez donc la l'application Radio France. À noter pour tous les styles abordés aujourd'hui, les innombrables compilations éditées par les excellentes éditions Frémo, avec des livrets à chaque fois riches, précis et instructifs. À la technique aujourd'hui, c'était Marie-Claire Oumabadi et Agnès Catou à la réalisation. Merci à toutes deux. Au micro, Amaury Chardot. À dimanche 15h pour un prochain Jukebox. Yeah.